festive. Voyage dans la culture pastorale des Alpes. Une émission proposée par la Maison du Berger et la Fédération des Alpages de l'Isère.
Transhumance, du latin trans, à travers, et humus, la terre.
Blaise Hoffmann a le virus de l'écriture. Blaise Hoffmann est suisse et il a aussi le goût de l'aventure. L'aventure au sens large, celle qui se vit dans les contrées lointaines, de par le monde, mais aussi celle plus délicate et plus intime qui explore l'exotisme du proche. Chemin faisant, notre jeune écrivain helvétique a tenté l'aventure de l'estive. Les bruits, les odeurs et les sentiments inspirés par la solitude et la grandeur des espaces l'ont amené à tenir le journal de bord d'un moutonnier. Il en a fait un livre intitulé « Estive », couronné par le prix Nicolas Bouvier 2008 au Festival des étonnants voyageurs de Saint-Malo.
J'ai simplement contacté un des rares éleveurs qui ont des troupeaux, des gros troupeaux en estive, donc qui nécessitent un berger de garde à plein temps. Et puis j'ai eu droit à une journée de test pour la tonte des moutons, juste voir si j'étais capable de, si j'avais un contact avec les bêtes. C'est normal, disons. Et puis après, il m'a pris directement. Et puis ça, on est formé sur le tas. C'est-à-dire qu'on passe quelques journées avec l'éleveur, qui était un éleveur pas très pédagogue. Ce qui fait qu'il misait davantage sur l'observation et l'expérience. Et c'était plutôt, tu verras, ça va venir. Et puis il m'a laissé seul avec le troupeau. Et puis c'était parti comme ça.
Réveillé par les premiers rayons du soleil, non, par une bourrade sur l'épaule, je n'ai pas besoin de m'habiller. Je le suis, chaussures comprises. Une giclée d'eau sur le visage et un coup d'œil sur le troupeau. Robert avait raison, il ne s'est pas dispersé. Robert a toujours raison. Le temps d'une cigarette. Robert n'a pas le temps. Il resterait bien. Il doit redescendre. Des livraisons à faire. On se lance un coup de grelot. À bientôt.
Quand on est moutonnier sans diplôme, sans formation, en tout cas en Suisse, on est payé au lance-pierre. Donc il prend pas un grand risque financier, mais il prend le risque de voir son moutonnier s'en aller après 2 semaines, ce qui lui arrive la plupart du temps. Chaque été, c'est quand il prend des étudiants ou des personnes sans aucune formation, généralement, il laisse le troupeau au plan et puis il se retrouve avec un troupeau dispersé. Dans mon cas, c'est vrai que durant toute l'estive, il y a passablement de jours où on se pose la question « mais qu'est-ce qu'on fout là ?» Mais c'est assez vite compensé par le plaisir qu'on a là-haut. C'est une vallée qui se trouve dans les Alpes vaudoises, donc dans les premiers reliefs des Alpes en Suisse francophone, qui était à 1 heure de route de chez moi, à Lausanne, donc vraiment pas un alpage isolé, mais par contre dans une vallée qui n'est pas habitée à l'année, donc c'est vraiment une vallée assez rare en Suisse, parce que toutes ces Alpes sont maintenant colonisées, et peuplées et exploitées. Alors quand on élève des moutons, on est bien sûr dans les reliefs les plus escarpés de cette vallée, il y a des vaches dans les reliefs plus doux. Et puis c'était sur l'été, cinq montagnes, cinq alpages différents, desquels on transhumait, donc 4-5 petites transhumances d'un alpage à l'autre, et chaque fois des terres assez différentes.
Au total, cet été, 5 transhumances. Du grenier à l'ortier, de l'ortier à l'iozon, de l'iozon à la cabane de moutonnier, de la cabane de moutonnier à l'ortier, de l'ortier au grenier. 5 manœuvres d'un jour à peine, 5 retours furtifs sur la route de Longrin pour mener les bêtes sur un autre herbage, toujours au plus près des crêtes, là où les bovins refusent de grimper.
Alors j'étais un peu angoissé, toujours, surtout que les moutons n'étaient plus à vue Contrairement aux vrais bergers qui, eux, ça, connaissent exactement la montagne, leurs bêtes, pour moi, c'était vraiment une sorte de troupeau imprévisible, alors que j'avais l'impression que pour moi, les moutons étaient grégaires. Mais ça, on quitte vite cette idée. Et ben, ce que l'on fait pas par maîtrise de la profession, on le fait avec les pieds, et puis on court du matin au soir dans les premières semaines pour maîtriser un petit peu cette masse.
La nuit, le troupeau se concentre. Les forces centrifuges n'éclatent qu'au premier rayon de soleil. Le système tend alors au désordre, à l'entropie. Comme un inlassable Big Bang miniature, chaque matin, à une vitesse inversement proportionnelle à l'intensité du soleil, les bêtes partent en quête de la meilleure herbe, selon un mouvement uniforme, jusqu'à buter contre un rocher, une falaise, un chien, un berger. Alors, sans cesser de brouter, l'animal rebondit sur l'obstacle dans la direction opposée. Le troupeau dessine, grandeur nature, sur l'alpage, un schéma implacablement logique. Laissées en liberté, les bêtes se réunissent en groupes d'affinité familiale, psychique ou raciale. La mère avec ses petits, les agneaux indépendants réunis en bande, les bêtes élevées en forêt entre elles, les charolaises à l'écart des autres. Chaque clique s'organise autour d'un ou de plusieurs animaux pilotes, des bêtes dominantes, à fort esprit d'insubordination, qu'il vaut mieux avoir à l'œil. Le but étant de restreindre les velléités de dispersion du troupeau, sans empêcher ce dernier de brouter, de lui imposer une limite pour qu'il ne mange pas que la meilleure herbe et piétine le reste. On obtient ainsi un troupeau, un organisme chaotique mais prévisible, une société précaire mais ordonnée, un système qui obéit à une équation dépendant de l'heure, de l'eau, de l'herbe, de la température, de l'appétit, du soleil et de quelques autres variables que j'aurai tout loisir de découvrir ces prochains mois.
J'ai plutôt fait des voyages géographiques. Enfin, avant cette expérience-là, à partir en Asie, en Afrique, en Amérique, et puis sans trop connaître mon pays finalement. Et puis c'était un moyen de renouer avec une certaine idée qu'on a de l'helvétisme, ce peuple des bergers. Enfin, moi je parle de suissitude, cette identité vraiment primitive. Et c'est après coup, une année après cette expérience, que je me suis aperçu qu'on était vraiment dans les mêmes énergies que le voyage. Vu qu'on est en confrontation avec différentes cultures, la culture des vachers, la culture des randonneurs high-tech qui croisent les pâturages, la culture militaire, vu que j'étais dans une vallée qui était une place d'entraînement pour l'armée suisse, la fameuse armée suisse. Donc ça donnait vraiment quelques sensations de voyage, et puis surtout au niveau de l'humeur, c'est qu'on a des moments d'élévation assez hautes, et on a passablement de moments aussi de découragement, de pluie, de brume, où on s'aperçoit que c'est pas un métier qui s'apprend en un seul été.
Silène, anémone, molène, primevère, renoncule, millepertuis, orchidée, campanule. Faut-il connaître le nom des étoiles et des montagnes pour les aimer? Les astronautes sont de froids mathématiciens. Quand on leur donne la parole, les grands alpinistes sont si décevants. L'arbuste sert d'abri contre la pluie. Les pierres sont découvertes pour servir le sel. L'herbe forme un matelas confortable. Les fleurs fournissent des repères pour mesurer la progression des moutons. L'herbage passe au travers d'un mouton. Le mouton grandit, se reproduit, se mange, se boit, se porte. Le berger tient un petit commerce de domestication animale. Il optimise les gains en fonction d'un calendrier des tâches. Et merde pour la botanique et l'harmonie.
Il y a une envie, comme dans mes récits de voyage précédents, de démystifier, de casser quelques préjugés. On part, quand on va visiter un pays, on part avec une image de ce pays, on s'aperçoit qu'elle n'est pas du tout la même. J'avais envie de le raconter ça, puis de trouver une beauté supérieure, une beauté, une fois qu'on a gratté ce vernis de mondialisation, de technologie, de tourisme, d'exploitation, de voir une beauté au-delà. Puis alors, pour le métier de berger, de faire pareil, de ne pas d'être franc, de vraiment raconter le quotidien d'un berger avec toutes ces tracasseries, et d'aller quêter ces moments de plénitude.
Courte sur pattes, Tina ne paie pas de mine. Elle n'aboie que lorsqu'une brebis, prise dans un filet, demande mon aide. Louis et Guisée, attentive au moindre mouvement, elle sait, sans recevoir d'ordre, ramener des bêtes qui se font la belle dans mon dos. Si les brebis n'obéissent pas à son faible gabarit, Tina leur tient tête, les dévisage silencieuses, sans renoncer. Précise, rapide et travailleuse, elle obéit à une dizaine d'ordres. Va chercher, à gauche, à droite, pousse, stop, pas bouger, au pied.
En haut, arrête-les en haut. Fais le tour devant. Ah, couche-toi, pas bouger, assieds-toi. Assieds-toi dans les sauniers.
Brina donne davantage dans le flegme et la maladresse. Mais deux de ses aboiements suffisent à déplacer le troupeau entier. Hélas, elle ne se contente pas de pincer les moutons au jarret. Elle mord. On lui a épointé les canines. Si elle continue, on devra lui mettre un collier électrique.
J'ai rencontré que des personnes qui avaient envie de faire ça, qui auraient toujours voulu faire ça, qui ne l'ont pas trop fait. Donc ça attire une certaine sympathie plutôt. Et j'ai eu quelques visites. Alors les visites, ce n'est pas par temps de pluie, et ce n'est pas à 5h du matin quand on doit se lever pour rejoindre les bêtes. Mais j'ai eu plusieurs personnes qui ont pu voir un petit peu en quoi consistait le métier. Pendant qu'on est à l'alpage, on a de la peine à consommer de la culture urbaine. Les théâtres, les cinémas sont assez loin. C'est un métier où j'ai un peu peur aussi de s'éloigner socialement. Qui a un choix de vie à part entière. Personnellement, je ne suis pas prêt à faire ce pas.